1914, l'attentat qui a déclenché la Première Guerre mondiale, l'assassinat de François-Ferdinand d'Autriche à Sarajevo. Ça ne m'étonnerait pas que quelques balles serbes m'attendent là-bas. François-Ferdinand d'Autriche en 1914, quelques jours avant son assassinat à Sarajevo. D'histoire. Jamais dans l'histoire un attentat n'aura eu autant de conséquences que celui qui s'est produit dans la capitale de la Bosnie le 28 juin 1914. Ce jour-là, à 11h du matin, en quittant l'hôtel de ville de Sarajevo, l'archiduc héritier d'Autriche, François Ferdinand, ne savait pas qu'il n'avait plus que quelques minutes à vivre et qu'à quelques centaines de mètres de là, un jeune Serbe de 19 ans avait mis dans le chargeur de son revolver une balle qui allait précipiter l'Europe dans une des guerres les plus meurtrières de l'histoire. Mais François Ferdinand et sa femme savaient en revanche le risque qu'ils prenaient en se rendant dans une ville où une poignée de terroristes serbes avaient juré de liquider celui qui devait un jour régner sur l'Empire des Habsbourg.
Pour combien de temps pars-tu ?
3 semaines de manœuvre. Et le dernier jour, Sarajevo.
L'archiduc entrera à Sarajevo.
Sarajevo est territoire autrichien, Excellence.
Bosniaque.
Donc autrichien. Les manœuvres se termineront à quelques kilomètres de la ville. Il est tout naturel que son Altesse fasse à la capitale de la Bosnie une visite amicale.
Le jour de la fête de l'indépendance.
La fête sera plus complète, Excellence.
Mais ne craignez-vous pas, monsieur le ministre, que quelques jeunes fanatiques soient tentés de la rendre plus complète encore ? Une balle est vite glissée dans un fusil qui devrait être chargé à blanc. Est-il pas possible de différer ces manœuvres ?
Tout à fait impossible, Excellence, pour des questions de prestige que vous comprendrez certainement.
Jean-Louis Thériault, bonjour.
Bonjour.
C'était l'extrait d'un film qui nous servira de fil conducteur tout au long de cette émission sur l'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo, un assassinat dont les conséquences ont été tellement tragiques. Une guerre mondiale, il faut le rappeler, l'effondrement de 4 empires, le bouleversement de la carte de l'Europe, tellement tragique qu'on a presque oublié celui qui en a été la victime, François Ferdinand d'Autriche, dont vous venez d'écrire une biographie, et qui n'était pas du tout un prince d'opérette, comme on en voit tant à la une de la presse People, hein, aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus beaucoup de rois ou d'empereurs qui règnent vraiment. Mais à l'époque, cet homme était très important. François Ferdinand d'Autriche, c'était le futur chef d'un grand État européen, Jean-Louis Thériault.
Absolument, c'était l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie. Il était le neveu de l'empereur François-Joseph, le mari de Sissi. L'empereur François-Joseph et son épouse avaient eu un fils, Rodolphe, fils qui s'est suicidé à Mayerling, ne laissant pas d'héritier mâle. Et c'est dans ces conditions que le fils de François-Joseph étant mort, son frère Maximilien, qui aurait pu régner, ayant été fusillé au Mexique, où il avait été dans une malheureuse aventure, c'est le deuxième frère de François-Joseph, Charles-Louis, qui devenait potentiellement héritier du trône, mais qui était un personnage falot et inconsistant. Et c'est comme ça que François Ferdinand s'est retrouvé à partir de 1896, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, à la mort de son père, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie.
Et prévu pour dans peu de temps. Il faut rappeler quand même que en 14, je crois, François-Joseph avait 86 ans.
Absolument. Il régnait depuis 1848, l'un des règnes les plus longs du siècle. Il ne pouvait rivaliser qu'avec la reine Victoria en la matière. Et donc, on s'attendait à ce que très rapidement, François-Ferdinand monte sur le trône. Mais la longévité de François-Joseph a été exceptionnelle et il n'est mort qu'en 1916.
Alors, un héritier qui entend bien se distinguer de la politique de son oncle François-Joseph, qui n'hésite pas d'ailleurs à s'opposer à lui, et notamment en se mariant à une femme de la petite noblesse tchèque, Sophie Kotek, que refuse François-Joseph. Pour quelle raison est-ce que ce mariage d'amour a été refusé ?
On est à une époque qui est marquée marqué par une conception politique particulière qui est celle du sanguis regius, du sang des rois, c'est-à-dire de l'élection de certaines familles par la Providence pour régner sur les peuples. Et en vertu de cette théorie, ne peuvent donner les meilleurs souverains possibles que des unions faites entre des personnes qui partagent ce même sang. C'est la raison pour laquelle, alors que l'Empire d'Autriche-Hongrie rencontrait de nombreuses difficultés, François-Joseph tenait absolument à ce que l'héritier du trône fasse un mariage égal, c'est-à-dire avec une femme appartenant à une famille royale.
Mais est-ce que ce n'était pas le cas de Sophie Kotek, qui était quand même une noble
de grande, c'était de la grande noblesse tchèque, apparentée aux Tchernine, aux Kinsky, aux meilleures familles d'Autriche-Hongrie, mais qui n'avait pas le prédicat, le statut d'altesse royale, comme l'étaient uniquement les familles régnantes, ou ce qu'on appelait les familles médiatisées du Saint-Empire, c'est-à-dire qu'il y a des familles qui avaient régné avant la dissolution du Saint-Empire par la volonté de Napoléon.
Alors malgré ce refus de François-Joseph, François-Ferdinand va donc épouser Sophie Rotek, mais à quelques conditions qu'ils sont contraints d'accepter tous les deux en 1900, l'année de leur mariage.
Je reconnais que mon mariage avec la comtesse Kotek est un mariage, non pas selon la règle, mais morganatique, devant être considéré comme tel maintenant et en tout temps. En conséquence, je renonce pour ma femme. Je renonce pour les enfants que nous pouvons espérer de ce mariage. Je renonce à tous les droits, titres, armoiries, privilèges qui appartiennent aux légitimes et à la postérité des archiducs issus de légitimes mariages.
La marche de l'empereur Johann Strauss, une marche qui a été écrite une dizaine d'années environ avant le mariage de François Ferdinand et de Sophie Rotek. C'est incroyable les conditions que l'on vient d'entendre. C'était un mariage morganatique, c'est-à-dire Jean-Louis Thiriot.
Ah, écoutez, je crois que l'extrait du film de Max Ophüls qu'on vient d'entendre le résume parfaitement. C'est un mariage légitime mais non dynaste. Concrètement, cela veut dire que les enfants que François Ferdinand pourrait avoir avec Sophie Kotek n'ont pas droit à succéder au trône, n'ont pas droit à bénéficier de l'héritage Habsbourg et n'ont pas droit au titre d'archiduc et à s'appeler Habsbourg. Quant à son épouse, ça veut dire qu'elle n'aura pas rang et titre d'impératrice d'Autriche et elle sera protocolairement placée toujours après la famille royale.
Vous le rappelez dans votre livre, c'est pendant une dizaine d'années, entre même plus de 10 ans, entre 1900 et 1914 d'ailleurs, François Ferdinand va tout faire pour que sa femme apparaisse officiellement dans les cérémonies ou dans les voyages officiels. Et ça, on le lui refuse tout le temps. C'est une position extraordinairement humiliante et pour lui et pour elle, bien entendu. Elle sera quand même faite duchesse de Hohenberg.
Oui, c'est un extraordinaire chemin de croix protocolaire qu'ont eu à vivre ce couple hors norme. C'est un des caractères très attirants de l'archiduc, mais un chemin de croix terrible. Pour ne prendre qu'un exemple, lorsqu'ils se rendaient ensemble au théâtre de la cour, l'archiduc prenait place dans la loge impériale et son épouse n'y avait pas droit et donc devait se trouver dans une autre loge. Et ça a été effectivement un des objectifs de François Ferdinand et progressivement il a réussi à faire monter, je dirais, en puissance son épouse pour qu'elle acquière une petite place officielle. Effectivement, elle a été créée princesse Hohenberg, puis duchesse Hohenberg. On lui a donné le prédicat d'altesse sérénissime. Donc progressivement, elle montait en puissance. Cela dit, elle n'était pas reconnue officiellement comme étant de la famille royale, y compris en 1914.
Et alors qu'elle devait être la femme donc de l'empereur d'Autriche à la mort de François-Joseph, à la tête d'un empire qui était un état multinational et pour cette raison très fragile, vous parlez d'une bayadère de peuple. Il faut peut-être rappeler ce qu'était cet empire aujourd'hui disparu, parce qu'il y avait, vous le rappelez, 18 nationalités dans l'Empire d'Autriche-Hongrie.
Oui, l'Empire austro-hongrois était une mosaïque de peuples avec 18 nationalités dont les grandes composantes étaient les Allemands d'Autriche, les Tchèques de Bohême et les Polonais, les Hongrois et les Slaves du Sud, c'est-à-dire l'actuelle Slovénie-Croatie. Avec une singularité particulière, c'est que chacune de ces composantes avait des traditions historiques propres, et la Hongrie, qui avait une tradition d'État extrêmement ancienne, avait un statut particulier dans cet ensemble. À la suite d'émeutes et d'insurrections qu'il serait trop long d'évoquer ici, l'Empire d'Autriche est transformé en Empire d'Autriche-Hongrie, avec une capitale à Budapest et une capitale à Vienne. Cela date de 1867, l'empereur d'Autriche étant en même temps roi de Hongrie.
Un empire très difficile à maintenir, dont il est difficile de maintenir ensemble toutes les populations qui s'y trouvent, Jean-Louis Thériault, parce que nous sommes au 19e siècle, qui est le siècle des nationalités. On a vu en 1848 des révoltes éclater dans tout l'empire, que ce soit en Hongrie, que ce soit en Bohême. Tout le monde veut son indépendance.
Absolument, mais on est à l'époque du développement du nationalisme, qui a été très largement initié dans le monde germanique par les conquêtes napoléoniennes qui ont amené les populations à prendre conscience de leur identité. Et la grande difficulté de l'Autriche-Hongrie, c'était d'arriver à faire cohabiter des peuples très divers, parlant des langues diverses, ayant des cultures diverses, et à la fois de respecter le particulier et en même temps d'avoir une tête suffisamment puissante pour que l'intérêt général puisse être sauvegardé.
Alors ça, c'est justement le projet de François Ferdinand d'Autriche. Il a volonté de faire des réformes quand il montera sur le trône de l'Empire austro-hongrois un changement de statut qu'il est prêt à accorder donc aux Slaves, hein, notamment, c'était notamment les Slaves du Sud, parce que non seulement cet empire est peuplé d'une quantité de nationalités, mais à chacune d'entre elles ne correspond pas forcément à un pays. Il y en a plusieurs qui vivent dans la même région. Par exemple, en Bosnie, annexée en 1908, ben, il y a des Serbes, mais il y a aussi d'autres populations.
Ah, c'est une véritable imbrication de peuples. En Bosnie, vous avez des Serbes, vous avez des Croates, vous avez des musulmans de Bosnie et qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts et les mêmes objectifs.
Et pareil
c'est valable partout en Bohême. Vous avez sur la même zone des Tchèques, des Slovaques, une minorité allemande très importante, ce sera les fameux Sudètes qui seront à l'origine de la crise des Sudètes au moment du Troisième Reich, et des Polonais au nord, en Galicie.
Alors les Slaves, en fait, pour faire court, rêvent au fond du statut qu'ont obtenu les Hongrois. Les Hongrois et les Allemands gouvernent au fond à deux ce pays, hein, c'est ce qu'on appelle la double monarchie, vous le disiez. Et puis alors, François Ferdinand envisage de leur donner un statut plus important à tous les Slaves, ceux du Nord, les Tchèques, les Slovaques, ceux du Sud, les Slovènes, les Croates ou les Serbes. Un changement de statut donc qu'il est prêt à accorder le jour où il deviendra empereur, avec un projet de réforme qui tombe entre les mains des services de renseignement de François Joseph.
Rapport secret sur l'activité politique de Son Altesse Impériale, l'archiduc François Ferdinand. Fragment d'une conversation avec l'ambassadeur de France à Alexandrie. La monarchie autrichienne ne peut être sauvée que par la constitution d'une fédération d'États autonomes sur le modèle des États-Unis d'Amérique.
C'est exact.
Oui, sire.
Fragment d'une conversation avec un député anglais au cours d'un dîner privé au Caire. Les Tchèques et les Slovaques ont droit à l'indépendance et à la liberté politique. Fragment d'un rapport adressé au professeur...
Merci. Ce sont jolies tes idées.
Les idées sont connues. On les craint.
Si on craint tes idées, on a raison. Je tremble à la pensée des bêtises que tu commettras quand je ne serai plus là.
Et c'était un dialogue imaginaire entre François Ferdinand et son oncle, l'empereur François Joseph. François Ferdinand, dont les idées scandalisaient une bonne partie de la cour impériale. Alors, il parlait, on l'a entendu, est-ce que c'est vrai, d'une fédération, au fond, d'États, un peu comme aux États-Unis, les États-Unis d'Autriche.
Oui, alors il faut relativiser. Concernant le modèle américain, on l'a beaucoup dit, c'est passablement inexact. Il avait été horrifié parce qu'il avait vu des États-Unis, notamment à travers le capitalisme anglo-saxon, qui lui avait donné une image, une exploitation de la misère ouvrière assez terrifiante. Donc ça n'était pas le modèle américain, ça serait plus un modèle suisse auquel il avait été assez sensible. Et le but, c'est quoi? C'est de permettre à chaque nationalité au sein de l'Empire de se développer librement en appliquant avant la lettre le principe de subsidiarité, et pour rétablir l'équilibre entre les différentes composantes, d'avoir un pouvoir central fort qui puisse jouer un rôle de justice et d'équilibre. Maintenant, concrètement,
l'Europe d'aujourd'hui dont vous parlez, non?
Mais je crois que c'est, il posait à l'échelon de l'Empire austro-hongrois, les problèmes de l'Europe d'aujourd'hui. Simplement, aujourd'hui, on parle de 300 millions d'habitants. À l'époque, on parlait de 60 millions d'habitants, mais c'était une petite Europe à l'échelle de l'époque. Hein.
Alors, c'est un projet qui est assez révolutionnaire, on l'entend, qui mécontente beaucoup de gens. D'abord, il y a les Hongrois qui n'aiment pas ça du tout. Ils ont envie de rester avec les Allemands, ceux qui dominent l'Empire austro-hongrois. Jean-Louis Thériault.
Écoutez, ça mécontente essentiellement trois catégories de la population. Les Hongrois d'abord, qui oppriment un certain nombre de minorités slaves qui sont sur leur sol et qui voient leur prééminence menacée. Ça mécontente une partie de l'aristocratie, notamment hongroise, qui prospérait dans cette situation. Et ça mécontente surtout les Serbes, qui, au sud de la monarchie, depuis l'indépendance de la Serbie en 1878, s'efforcent de créer un pôle d'attraction pour les Slaves du Sud. Et ce pôle d'attraction...
Les Serbes, il faut rappeler qu'ils sont en partie, la population serbe se trouve en partie au sud de l'Empire d'Autriche, l'autre partie étant plus au sud encore, dans les Balkans, et étant devenue indépendante de l'Empire ottoman en 1829, hein, je crois. Il faut le rappeler. Donc il y a un État serbe indépendant au flanc sud de l'Empire d'Autriche et qui dit aux Serbes du Nord, ceux qui vivent en Autriche, venez, on va faire une grande Serbie ensemble, c'est ça?
C'est tout à fait ça. Et à partir de ce moment-là, il est bien évident qu'une rénovation de la monarchie qui respecterait les intérêts légitimes des Slaves du Sud, c'est-à-dire des Croates et des Bosniaques, affaiblirait considérablement le pouvoir d'attraction de la Serbie. Et donc François Ferdinand devient l'adversaire, le concurrent, et donc l'homme à abattre pour les Serbes.
Alors il y a pour beaucoup de gens, puisque vous dites aussi que l'aristocratie n'aime pas trop les idées de François Ferdinand, qui sont révolutionnaires, et pourtant vous faites le portrait, Jean-Louis Thériault, d'un homme qui était aussi, à bien des égards, très conservateur. Il n'aimait pas du tout la République française, qui selon lui était gouvernée par les francs-maçons qu'il détestait. Il était assez xénophobe, il était même très antisémite, dites-vous.
Tout à fait. François Ferdinand était un prince conservateur. Maintenant, les choses doivent être placées dans son époque. Concernant la République française, c'est vrai qu'en Autriche, à l'époque, ça peut encore rester vrai, on a laissé quand même parfois un mauvais souvenir. On a coupé la tête à une archiduchesse d'Autriche. Il ne faut pas oublier que Marie-Antoinette était archiduchesse d'Autriche. Plus concrètement, c'était d'abord un concret, c'est-à-dire un réaliste. Il avait une vision du monde fondée sur la transcendance, sur l'élection des rois, sur le principe monarchique et le pouvoir absolu, mais en même temps, il savait qu'on était au début du XXe siècle, que le temps de la monarchie absolue était passé, qu'il fallait faire avec les masses, avec les foules, et c'est pour ça qu'il militait, par exemple, pour l'introduction du suffrage universel en Hongrie.
Et pour l'antisémitisme, en revanche, là, même dans le contexte, ça se comprend plus difficilement.
C'est inacceptable, d'autant plus qu'il n'avait pas compris une chose évidente, c'est que l'une des forces de l'Autriche-Hongrie, c'était les populations juives d'Autriche-Hongrie, en particulier ses écrivains. Et qu'on n'oublie pas que les plus beaux chants à la gloire de l'Autriche-Hongrie ont été le fait d'écrivains juifs. Je pense à Joseph Roth, je pense à Musil, je pense à Schnitzler, tout ce qui a été
à Zweig, bien sûr,
tout ce qui a été cette fête de l'esprit qui était la Vienne fin de siècle, c'était pour une grande part la culture juive autrichienne.
Il était assez visionnaire aussi, dites-vous, François Ferdinand. Il craignait la guerre, il craignait une guerre mondiale qui serait entraînée à cause d'un petit, c'est ce qui va se passer d'ailleurs, d'un petit conflit local qui pourrait dégénérer en guerre mondiale à cause d'un système d'alliance dans lequel d'ailleurs l'Empire d'Autriche-Hongrie était impliqué. Il y avait d'un côté, il faut le rappeler, la triplice, c'était l'alliance de l'Allemagne, de l'Autriche et de l'Italie, et de l'autre la triple entente, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Et on sent bien qu'il craint les risques d'une guerre qui va se produire à cause de son assassinat, d'ailleurs.
Ah, il en est parfaitement conscient. D'abord, il est conscient des fragilités internes des différents empires, notamment de l'Empire austro-hongrois et de l'Empire russe. Et il est bien conscient que les engagements d'assurance et de réassurance pris entre ces deux blocs d'alliance font qu'en cas d'incident, la machine infernale risque de s'allumer. Personne ne pourra l'arrêter. Et c'est pour ça que pour sauver le principe monarchique, les deux principes en politique étrangère qu'il a essayé de faire sien, c'est d'une part une volonté pacifique, ne jamais être tenté par l'aventurisme militaire, et deuxièmement, essayer de se rapprocher de la Russie qui était dans une alliance que lui estimait contre nature avec la France républicaine, pour que les deux empires, celui de Russie et celui d'Autriche-Hongrie, ne se jettent pas mutuellement à bas de leur trône.
Alors vous avez cité tout à l'heure le fait que parmi ceux qui le détestaient et qu'il n'aimait pas beaucoup non plus, il y avait la Serbie. Hein, la Serbie, ce petit royaume de Serbie, indépendant, je le répète, depuis 1829, et où on n'aime pas trop François Ferdinand, et où on rêve rêve de réunir, de rassembler tous les Serbes, y compris ceux de Bosnie au nord, la Bosnie qui a annexé l'Empire d'Autriche. Et c'est là où, en 1914, à l'occasion de manœuvres militaires, François Ferdinand se rend donc en Bosnie. C'est une vraie pétaudière. En plus, il y va au moment, le jour anniversaire de l'indépendance de la Bosnie. Donc, par conséquent, vraiment, c'est passé pour une provocation. Le plus extraordinaire, c'est que lui-même hésitait à y aller. Et justement, il disait c'est une provocation.
Oui, pas à propos de la date, parce que la date, on s'en est rendu compte après qu'il y avait eu effectivement une erreur inconcevable quant au calcul de la date. Le problème est que François-Joseph et pas mal de personnes étaient conscients qu'il y avait des risques, mais estimaient qu'une province nouvellement annexée, c'était le cas de la Bosnie, devait absolument avoir la visite du prince héritier. Donc lui-même n'était pas très chaud. François-Joseph a tenu à ce qu'il s'y rende, et donc il y est allé tout en étant conscient des risques, mais en estimant que ça faisait partie de son métier de souverain.
Les risques sont énormes. Vous rappelez aussi l'itinéraire des trois principaux conjurés qui vont l'assassiner, Gavrilo Princip, Nedeljko Gabrinovic et Trifko Grabez, et qui, dont on sait, dont on connaît la présence à Sarajevo quelques jours avant l'arrivée de François Ferdinand d'Autriche. Ils se vantent dans les bistrots qu'ils vont assassiner. C'est incroyable que rien n'ait été fait. D'ailleurs, le jour où il arrive à Sarajevo, le matin, avant d'être tué quelques heures plus tard, François Ferdinand est déjà victime, avec sa femme qui est présente, d'une première bombe, celle de Gavrinovic, qui est lancée sur sa voiture ce matin-là, le 28 juin 14.
Ah, l'attentat de Sarajevo est un véritable roman policier. Ça a d'ailleurs été un grand plaisir à travailler dessus, parce qu'en fait, il n'y a pas eu un attentat de Sarajevo, mais deux attentats de Sarajevo. C'est-à-dire que les trois Serbes qui voulaient attenter à la vie du prince héritier se sont le matin massés le long du quai où ils passaient et ont jeté des bombes explosives sur le convoi. Par chance, les bombes n'ont pas atteint le prince héritier, ont rebondi sur la capote et ont blessé un certain nombre de membres de son escorte. Là, à ce moment-là, le convoi accélère et tout le monde se réfugie à l'hôtel de ville où un accueil solennel lui est réservé.
Et alors, à ce moment-là, oui, à l'hôtel de ville.
À l'hôtel de ville.
Et madame, la duchesse de Hohenberg.
C'est un grand honneur pour moi d'être chargé d'assurer votre Altesse, en cette heure inoubliable, de l'amour des populations bosniaques pour leur auguste souverain et de leur loyauté.
Charmante loyauté. On nous reçoit avec des bombes.
Nous osons espérer que cette journée restera pour votre Altesse comme la preuve de notre fidélité, de l'attachement indéfectible de la Bosnie tout entière à la maison de Habsbourg. Qu'il nous soit permis enfin de laisser éclater l'allégresse dont nos cœurs sont pleins en criant « Vive l'empereur, vive l'archiduc héritier, vive l'Autriche !»
Je suis heureux des sentiments de loyalisme que la population de Sarajevo témoigne à la maison des Habsbourg.
Ce sont les deux coups de feu de Princip, donc, qui vont tuer François Ferdinand d'Autriche et sa femme le 28 juin 1914, quelques minutes après qu'ils aient quitté, on vient de l'entendre, l'hôtel de ville de Sarajevo, victime bien sûr de Princip, mais aussi quand même des négligences de la police autrichienne. Ce qu'il y a d'extraordinaire, vous le rappelez dans votre récit, Jean-Louis Thériault, c'est que en fait, il y a pratiquement aucune protection, personne pour les protéger.
Ah, c'est tout à fait hallucinant. Tout d'abord, alors qu'on sait qu'il y a déjà eu un premier attentat et que les rues sont noires de monde, on ne fait pas évacuer la foule alors qu'il y a des unités militaires qui sont disponibles. Et la raison que l'on invoque, on est bien dans l'Autriche-Hongrie avec tout ce que ça signifie de protocolaire, le protocole interdit à des troupes en tenue de campagne de faire évacuer la rue. Ensuite, pour saluer un archiduc. Ensuite, on a un commissaire de police qui oublie d'informer ses services du changement d'itinéraire pour protéger l'archiduc. Et donc, la voiture qui transporte l'archiduc s'arrête pile devant les assassins avant de prendre le nouvel itinéraire. Donc, une série d'enchaînements malheureux, de négligences qui sont à imputer effectivement au mauvais fonctionnement de la police et de l'administration
hongroise. Au point qu'on a dit qu'elles étaient volontaires et qu'on dit que certes, les Serbes, puisque les Serbes ont armé le bras des assassins, sont derrière, mais que même en Autriche, il y a peut-être des gens qui avaient intérêt à laisser faire, à laisser se produire cet attentat qui, d'une part, débarrassait l'Empire d'un prétendant au trône qui était trop révolutionnaire aux yeux de certains, et qui, d'autre part, donnait un excellent prétexte de guerre contre la Serbie.
Oui, ça, je n'y crois pas énormément à la responsabilité volontaire de l'Autriche-Hongrie. Je pense que c'est une suite de négligence. En revanche, la volonté serbe est tout à fait claire, et la preuve, si l'on en veut une, c'est après la chute de l'Autriche-Hongrie, la création de la Serbie, l'une des premières choses que fait le roi de Serbie, c'est de faire installer à Sarajevo un monument à la gloire de Gavrilo Princip, l'assassin de François Ferdinand. Ça, ouais. Juste après-guerre. Et je crois que ça sonne comme un aveu, c'est le moins qu'on puisse.
Oui, parce que Princip, faut le rappeler, n'a pas été condamné à mort, il était trop jeune, hein, donc l'Empire d'Autriche n'a pas condamné à mort. Il est mort en prison pendant la Première Guerre mondiale. Alors justement, conséquence immédiate, quelques jours plus tard, l'Autriche-Hongrie envoie un ultimatum à la Serbie, elle a son prétexte, hein, de guerre contre la Serbie, en finir avec ce petit pays qui menace l'intégrité de l'Empire, et là il y a tout l'enclenchement qu'avait prévu d'ailleurs François Ferdinand, hein, déclenchement de la guerre contre la Serbie le 27 juillet, le 29, la Russie, qui est l'allié de la Serbie, mobilise à son tour, comme la Russie mobilise, le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, puis à la France le 3 août, puis en son tour l'Angleterre le 4 entre en guerre parce que la Belgique est envahie par l'Allemagne. Bref, il y a toute cette espèce de logique épouvantable qui se met en place à cause de la mort de François Ferdinand.
Ah, cette logique infernale, c'est la logique des alliances que François Ferdinand voulait contrer et qui aboutit effectivement à la Première Guerre mondiale. Et le soir du 3 août 14, Sir Edward Grey, ministre anglais des Affaires étrangères, a écrit dans son journal « Les lumières s'éteignent aujourd'hui sur l'Europe. Nous ne les reverrons plus briller de notre vivant. Je crois que le destin de François Ferdinand et l'attentat de Sarajevo annonce bien l'extinction de ses lumières sur l'Europe. »
Et à tel point les conséquences ont été telles qu'on a fini par oublier, au fond, le personnage principal de cet attentat qui était François Ferdinand, dont vous nous rappelez l'histoire, la biographie, Jean-Louis Thériault, dans un excellent livre, François Ferdinand d'Autriche, de Meyerling à Sarajevo, qui a été publié aux éditions de Fallois, qui est devenue d'ailleurs la descendance de François Ferdinand.
Alors, la descendance de François...
Parce qu'il avait des enfants, sa femme est morte avec lui, mais ses enfants...
Il avait trois enfants qui ont eux-mêmes eu des enfants, et c'est une famille de l'aristocratie autrichienne qui vit notamment au château d'Archstetten, où il y a un remarquable musée François Ferdinand que les auditeurs intéressés peuvent aller voir, ça en vaut vraiment la peine, et qui aujourd'hui sont présents dans la diplomatie, notamment l'Autriche ayant été représentée à Washington par un Hohenberg.
Vous avez pu entendre des extraits du film de Meyerling à Sarajevo de Max Ophüls, un film disponible en VHS et distribué par Canal+ Vidéo. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, une émission réalisée par Anne Kobilac avec le concours de Michel Thomas, Antoine Viossa, Claire Destacan, Claire Tesser, Camille Pouget-Laguier et Cédric Joseph Julien. Je voulais également saluer aussi une grande voix de France Culture qui m'y a beaucoup appris de choses quand j'en étais producteur puis directeur, Claude Métra, qui est mort...